Frères et sœurs, notre espérance est en Dieu. C'est de l'Éternel, notre Dieu, que nous recevons ce matin encore la grâce, la paix et la joie au cœur même de notre existence. Alors, frères et sœurs, levons-nous pour chanter Dieu avec la première strophe du psaume 95. Au psaume 95, chantons la première strophe. Commençons ce culte en louant Dieu. Oui, loué sois-tu, ô Seigneur Dieu, de nous appeler pour être tes serviteurs. Loué sois-tu, Dieu notre Père, de regarder tous les humains avec pitié et bienveillance, et de ne pas être en quelque sorte rebuté par nos infidélités, nos difficultés, nos doutes, nos hésitations. Loué sois-tu, ô Seigneur Dieu, toi qui, jour après jour, veux nous faire monter vivants du gouffre et qui jamais ne nous abandonne au désarroi ou au sentiment de solitude. Béni sois-tu, car tu places le pardon et la résurrection sur nos chemins très humains, des chemins parfois un peu barbares, et avec toi nous découvrons que rien n'est jamais perdu, tout est à nouveau possible, car tu aimes ta création et ce monde, tu l'aimes d'un amour inconditionnel. Alors grâce te soit rendue pour la puissance de ton amour, tel que le Christ Jésus l'a incarné. Amen. Frères et sœurs, poursuivons notre louange par le chant du psaume 98. Au psaume 98, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3.
Thank you.
Prenons place et nous reprendrons ensuite le psaume 95 pour ponctuer notre culte. Pour le moment, recueillons-nous dans la prière de repentance. Seigneur Dieu, l'honnêteté nous oblige à dire que bien souvent nous avons préféré notre désir à ta volonté. Nous avons travaillé plus pour nous-mêmes que pour ton royaume. S'agissant de l'amour, nous nous sommes aimés, mais qu'avons-nous fait de l'amour du prochain ? Alors Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous de n'avoir pas suffisamment changé. Pardonne-nous de nous être si souvent repentis en vain. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes en dépit de tout, métamorphose notre volonté de façon à ce qu'elle entre en harmonie avec la tienne. Et avec ton pardon, accorde-nous la force et la joie de mieux t'aimer et te servir. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Chantons la troisième strophe du psaume 95. Frères et sœurs, pour faire suite à cette prière de repentance, souvenons-nous de cet oracle de l'Éternel qui retentit dans le livre du prophète Jérémie. Le prophète s'adresse au peuple et lui dit ceci, au nom même de Dieu, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Frères et sœurs, Dieu s'adresse à son peuple alors qu'il est captif à Babylone. Et il a tenu promesse, en quelque sorte, nous pouvons dire qu'il s'est laissé trouver de telle manière que le peuple hébreu a eu un avenir. Alors, nous-mêmes, nous pouvons entendre à nouveau ces versets aujourd'hui, car cette promesse reste valable pour nous aussi aujourd'hui. Chantons à Dieu notre reconnaissance en nous levant avec la deuxième strophe du psaume 95. Frères et sœurs, l'amour de Dieu nous incite à vivre pleinement en toute liberté. Mais entendons néanmoins ces paroles du théologien Dietrich Bonhoeffer. Il écrit ceci. « Si tu pars à la recherche de la liberté, apprends avant tout la discipline. la discipline de tes dons et de ton âme, afin que tes désirs et ton corps ne te mènent pas à l'aventure. » Je fais une petite incise, un peu comme les Hébreux qui sortent d'Égypte, qui éprouvent le goût de la liberté et qui vont se retrouver à errer 40 ans dans le désert. La discipline, c'est ce qui nous permet d'arriver plus vite en terre promise, nous fait comprendre Dietrich Bonhoeffer. Il continue ainsi, « Que ton esprit et ta chair soient soumis à toi-même entièrement et que, docile, ils cherchent le but qui leur est assigné. Personne ne sonde le mystère de la liberté, si ce n'est dans la discipline. » Dans une certaine mesure, une confession de foi est une discipline par la foi. Ce sont des mots qu'aujourd'hui je vous propose, que je vous impose en quelque sorte, pour essayer de structurer, de canaliser un peu vos émotions de foi, vos émotions spirituelles, et leur donner en quelque sorte le but que Dieu nous révèle à travers les Écritures. Cette confession de foi que je vous propose ce matin est celle de l'Église unie du Christ aux États-Unis, notre alter ego d'outre-Atlantique. Nous croyons en Dieu, Esprit éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père, et nous témoignons de ce qu'il a fait pour nous. Par sa parole, il établit le monde. Il crée l'homme à son image et il le laisse libre de marcher vers la vie ou vers la mort. Dieu, dans son amour, veut sauver tous les hommes du désespoir et du péché. Il juge hommes et nations par sa juste volonté, annoncée par les prophètes et les apôtres. En Jésus-Christ, l'homme de Nazareth, notre Seigneur crucifié et ressuscité, nous découvrons que Dieu est venu parmi nous, il a partagé notre vie, vaincu le péché et la mort, il a réconcilié le monde avec lui-même. Il répand sur nous son Saint-Esprit, il crée et renouvelle l'Église de Jésus-Christ, il rassemble dans son alliance les croyants de tous les âges, de toutes les langues, de toutes les races. Amen. Frères et sœurs, poursuivons l'expression de notre foi par le chant du cantique 208. Au cantique 208, nous chantons les strophes 1, 2 et 3. Thank you. Prenons place. Nous reprendrons ensuite le psaume 95 pour la dernière strophe. Prions Dieu. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous les paroles que nous allons entendre et conduis-nous ainsi dans ta vérité. Esprit de sainteté, viens habiter notre pensée, rends-nous attentifs à ta volonté, rends-nous soucieux de ce qui t'obscurcit en nous. Souffle là où tu veux, et néanmoins nous te demandons de guider en nous ce qui nous poussera vers la raison de notre existence, ta connaissance. Esprit d'amour, de joie, de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Amen. Frères et sœurs, à quelques minutes de mes congés, j'avais envie de penser un peu aux vacances avec vous, et donc je me suis dit que j'allais vous lire un texte sur le Shabbat, et donc je me suis orienté vers le livre de l'Exode au chapitre 20. Et ce faisant, je me suis dit qu'il aurait été dommage de ne pas vous lire les versets qui sont avant et qui sont après, et qui forment ce que nous appelons le décalogue. Et donc, je vous lis le décalogue, au chapitre 20 du livre de l'Exode. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, et c'est là donc la première des 10 paroles, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui visite la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du Shabbat, et c'est donc ces versets qui m'intéressaient au départ. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le Shabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni la fille, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Charge ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Après avoir lu et un peu médité ce décalogue, l'idée des vacances est un peu partie en vacances. Et ce qui m'a frappé, c'est le nombre d'interdits. Et je me suis dit, mais pourquoi y a-t-il autant d'interdits? Et en pensant aux prescriptions de Moïse et aux 613 mitzvot, 613 commandements qui structurent la Torah, je me suis rappelé qu'il y a 365 commandements négatifs sur les 613, plus que la majorité, c'est une majorité absolue. Je me suis dit, mais pourquoi y a-t-il autant de commandement négatif. Et alors du coup, je me suis dit, il faut que nous réfléchissions à cela. Et je me suis orienté vers l'apôtre Paul, dont je vais vous lire deux autres versets qui nous permettront de mettre en lumière ces passages. C'est dans sa première épître aux Corinthiens que je vais vous lire au chapitre 10, les versets 23 et 24. Voici ce qu'écrit l'apôtre Paul. « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. » Avant de méditer ces textes, je vous propose donc de chanter la quatrième strophe du psaume 95. Restons assis pour cela. Chers frères et sœurs, incidemment, je vous offre donc une deuxième session sur la question de la loi. Et pour les vacances, on verra à la fin du culte. Et en repensant à ces deux textes bibliques que je vous ai lus, je repensais à ce que me disait un psychanalyste il y a quelque temps au sujet des entretiens qu'il avait dans son bureau. Il me disait, il y a une vingtaine d'années, les gens venaient me voir pour traiter de leur culpabilité. Au fond, la loi les accablait et ils avaient mauvaise conscience, ils avaient un sentiment de culpabilité dont le psychanalyste essayait de faire quelque chose pour libérer l'énergie qui était en quelque sorte rentrée en eux-mêmes. Et il me disait, ces derniers temps, ce que je constate, c'est qu'il n'y a plus du tout de sentiment de culpabilité pour la bonne et mauvaise raison que les gens ont complètement perdu de vue la question de la loi. La loi n'est plus une question intégrée, encore moins structurante, en conséquence de quoi il n'y a plus de sentiment de culpabilité, ce qui, de ce point de vue, est une bonne chose. Mais nous allons le voir, et vous l'avez peut-être un peu entendu avec la citation de Dietrich Bonhoeffer, « S'exempter de la loi pose de sérieux problèmes ». Alors, il était quand même question de vacances au départ dans ce texte sur le Shabbat et je vous explique pourquoi j'avais choisi le livre de l'Exode plutôt que le Deutéronome. Car dans le Deutéronome, vous avez exactement le décalogue, sauf pour le Shabbat. Il y a le Shabbat, mais il n'est pas expliqué de la même façon. Dans le Deutéronome, il est expliqué par rapport à la libération d'Égypte. Et donc, c'est la fin de la servitude. Ici, dans le livre de l'Exode, le Shabbat est expliqué par rapport à la création, en Genèse 1. Et il me semble qu'il y a là, finalement, deux projets différents qui s'expriment à travers l'instauration du Shabbat. Dans le Deutéronome, il s'agit d'une libération, et donc de considérer qu'il ne faut pas sacrifier sa vie sur l'autel du travail pour pouvoir rester libre. Au fond, le Shabbat, qui maintenant est hebdomadaire, est une manière de vérifier chaque semaine que nous pouvons vivre une journée sans travailler, que nous ne sommes pas les esclaves du travail. Mais vous savez que dans la compréhension de ce verset, il ne s'agit pas simplement de l'activité professionnelle, car il ne faut pas porter de charge, il ne faut pas faire un chemin à pied d'une distance supérieure à quelques centaines de mètres, etc. Autrement dit, vérifier que nous sommes capables de ne pas dépendre d'Internet, parce qu'il ne faut pas produire d'électricité et donc il ne faut pas non plus utiliser Internet, le téléphone, etc. Oui. Peut-on vivre sans tout ce qui émaille notre quotidien et qui n'a pas un caractère essentiel ? Bon. Il me semble que dans la perspective du livre de l'Exode, ce n'est pas la dimension individuelle qui est en jeu, c'est la dimension sociale. Ce que nous entendons, c'est qu'en se référant au livre de la Genèse, au chapitre de la création, le Shabbat qui sert à arrêter l'activité humaine, s'arrêter de faire quoi que ce soit, nous permet d'être en relation les uns avec les autres. Autrement dit, la loi, en nous empêchant, fait apparaître l'autre. Je crois que c'est ça le sens du livre de la Genèse. Dieu crée en faisant apparaître ce qui est là et qu'on ne voyait pas forcément parce que nous étions tout à nos affaires. Il y a un travail de révélation dans Genèse 1 qui trouve son apogée dans le Shabbat. Il y a encore, en quelque sorte, une épiphanie de l'autre dans le Shabbat. Parce que nous ne sommes pas affairés à nos affaires, comme Marthe dans la cuisine, nous pouvons entrer en relation avec l'autre. Nous cessons de nous agiter un peu inutilement ou de nous justifier par les œuvres et nous avons la place, le temps, la disponibilité d'esprit pour découvrir celui qui se tient là, à nos côtés, et qui était peut-être étouffé sous l'amoncellement d'activités. Ce que j'aimerais vous faire comprendre en reprenant une phrase d'Albert Camus, en le paraphrasant, en faisant une petite distorsion, un chrétien, ça s'empêche. Voilà. Alors, pour ceux qui sont un peu facétieux parmi vous, vous pourriez vous dire, je peux m'arrêter là, mais je vais essayer de vous expliquer ça quand même, donc ça va prendre un peu de temps. Ce qui est frappant, c'est de constater que le décalogue, comme je vous le disais, est une collection d'interdits, principalement, une liste de choses qu'il ne faut pas faire. Et c'est paradoxal, avec le début de la phrase de Paul, « tout est permis ». Si tout est permis, au fond, on pourrait se dire « on n'a pas besoin d'avoir des interdits ». Mais Paul continue en disant « que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui ». Cela signifie que pour une grande part, Dieu place devant nous des interdits pour que nous puissions faire un peu de place à l'autre, que nous puissions prendre en considération celui qui est à nos côtés. Souvent, on se dit que la spiritualité chrétienne devrait être une sorte de coaching chrétien, c'est-à-dire nous donner tous les tuyaux, les bonnes recettes pour passer de bonnes vacances, pour avoir une vie géniale, donc toutes les recettes à faire pour être heureux. Mais en réalité, la Torah, notamment, est plutôt une collection d'interdits. Et donc, on ne peut pas vraiment dire que la spiritualité chrétienne ou que Jésus-Christ soit un coach qui guiderait pas à pas dans la moindre des situations. Le décalogue nous dit plutôt ce qu'il ne faut pas faire d'une manière assez générale pour nous faire comprendre que ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'empiéter sur le domaine des autres. Pour le dire d'une manière positive, il s'agit donc de laisser de la place aux autres. La loi est ici une manière de dire que nous devons tenir compte des autres lorsque nous vivons, lorsque nous agissons, lorsque nous parlons aussi. Paul ira plus loin en précisant que nous ne devons pas vivre en cherchant notre propre satisfaction, mais en faisant ce qui sera bon pour les autres. Et ça, c'est la définition de l'altruisme. Je dirais donc que le Shabbat est une pause dans notre vie, une pause dans nos actions, une pause dans nos projets pour l'autre. C'est le meilleur moyen pour laisser les autres respirer. Et au fond, quand on prend des vacances, c'est d'abord les autres souvent qui en prennent. Si nous étions toujours actifs, en faisant toujours plus pour prouver qu'on est quelqu'un de bien, nous en viendrions à empêcher les autres de vivre, nous ferions à leur place finalement. Le livre de l'Exode, en reliant le Shabbat à la création du monde, nous rappelle que nous ne sommes pas les créateurs du monde, que tout ne dépend pas de nous et qu'il faut donc mettre une limite à notre éventuel désir de toute puissance. Le Shabbat limite notre désir de toute puissance. Le Shabbat nous bride, et je reprends l'expression de Camus, il nous empêche. C'est dans Le Premier Homme, un livre sorti après son décès, qu'il a cette formule relative à ce qu'il écrit au sujet de son père, qui est témoin de massacres en Algérie, des massacres odieux. Je vous laisse lire si vraiment les détails sordides vous intéressent. Et une discussion s'engage entre son père et un ami pour savoir si cette violence et cette barbarie, cette boucherie étaient légitimes. Son ami lui dit « Moi, j'aurais fait pareil à leur place. » Et le père de Camus dit « Non, un homme, ça s'empêche. » Au sens où ça n'endosse pas les habits neufs du barbare au prétexte d'exercer le désir de vengeance, par exemple. Un désir qui peut être légitime dans une certaine mesure parce qu'il y a eu un crime odieux et qu'il faut faire justice, à ceci près que la vengeance n'est pas une manière de faire justice. Et donc, ce désir de vengeance doit s'empêcher, d'après Camus, d'après la morale chrétienne aussi. Un chrétien, un homme, un être humain, ça se retient, ça se limite pour laisser de la place à l'autre et de respecter la liberté de l'autre. Au fond, la loi pose des interdits pour limiter notre propension à prendre toute la place et à imposer notre volonté à tout va. En limitant notre activité, la loi laisse aux autres la possibilité d'être libres de mener la vie selon ce qui est juste pour eux. Et c'est la raison pour laquelle le philosophe John Locke, au XVIIe siècle déjà, appelait à une séparation entre l'Église et l'État, en quelque sorte, pour une raison qui est beaucoup plus philosophique que la chasse au cléricalisme. Au fond, l'idée était la suivante. C'est qu'il n'appartient pas à l'État ou à un gouvernement de décider ce qui rendra les gens heureux. Le bonheur n'est pas l'affaire d'un État ou d'un gouvernement. Lorsque c'est le cas, la société se transforme en camp de redressement. Et visiblement, c'est l'avenir que certains promettent à Taïwan s'ils ne font pas preuve de soumission à la Chine. C'est du moins ce qu'a dit l'ambassadeur de Chine en France. Il a promis une rééducation pour ceux qui n'étaient pas suffisamment patriotiques à ses yeux. Un homme, un humain, a fortiori un chrétien, ça s'empêche pour ne pas causer de tort à autrui. Le Shabbat, c'est une façon aussi de ne pas projeter notre désir ou notre idée de ce qu'est une vie bonne sur autrui. Et ainsi, on évite un peu de rendre pénible la vie de son prochain ou, comme c'est le cas avec l'exemple que prenait Albert Camus dans Le Premier Homme, cela évite de devenir semblable à ces assassins barbares en Algérie. Mon premier point est donc de considérer que la loi, avec ses interdits, est nécessaire pour faire société. Tout faire, ce serait empêcher les autres de vivre. Mon deuxième point est que tout faire, ce serait faire ce qui ne nous est pas bénéfique non plus. Que tout soit permis signifie que tout est possible. Et de fait, tout ce à quoi vous pensez est possible. Pensez à quelque chose, et si vous vous en donnez les moyens, vous pourrez le faire. Mais pour autant, est-ce une bonne idée ? Pas sûr. C'est plus ou moins facile à réaliser, mais c'est possible. Mais tout ce qui est possible n'est pas pour autant souhaitable. Parce que tout ne fait pas grandir, tout n'édifie pas, pour reprendre le terme de Paul, à commencer par nous. Non seulement il n'y a aucune grandeur à se comporter de manière inhumaine, mais il se pourrait que nous soyons nous-mêmes victimes de nos agissements en pareil cas. C'est la raison pour laquelle il importe de fixer des limites. Voyez-vous, ne pas faire de la moto à un enfant de 8 ans, je veux dire lui faire piloter une moto et lui faire faire des compétitions, c'est peut-être le brider. c'est certainement l'empêcher. Mais l'empêcher, c'est lui permettre de ne pas mourir sur le circuit lors d'une compétition comme la semaine dernière. C'est là un paradoxe, mais se limiter peut être une manière de nous augmenter et d'augmenter notre liberté. Ne pas faire, ne pas agir, ce peut être une action au sens de se retenir, au sens de résister à la tentation d'un plaisir immédiat dont la finalité, elle, n'aura rien de plaisante. La loi est faite d'interdits qui sont utiles pour les autres, qui sont utiles pour nous-mêmes. Sans interdits, que se passerait-il ? En fait, nous vivrions dans une terreur permanente. Sans interdits, nous serions tous des menaces les uns pour les autres. C'est ce qu'explique un autre philosophe, Thomas Hobbes, dans le Léviathan. Ce serait la guerre de tous contre tous. Et c'est la raison pour laquelle la loi, au sens des interdits, est nécessaire. Ça nous permet de souffler. Sans interdits, la vie quotidienne serait un rapport de force permanent. Il faudrait en permanence lutter pour sa survie, contre les autres. Et ce serait vraiment invivable pour les autres, invivable pour nous-mêmes. Il en va de même pour les tyrans qui, en dirigeant leur pays de manière arbitraire, en exerçant une tyrannie, ne sont pas à l'abri d'une révolte populaire. Ils le savent bien. Ils ne sont pas à l'abri d'une tentative d'assassinat. Dietrich Bonhoeffer lui-même a participé à une tentative d'assassinat contre Adolf Hitler. L'histoire montre que les tyrans sont les plus grands paranoïaques parce qu'ils savent que maintenant qu'ils ont aboli la loi, alors ils sont susceptibles d'être à la merci du désir d'assassinat du premier venu. Et leur vie devient un véritable cauchemar. Joseph Staline meurt de paranoïa parce qu'enfermé à double tour dans cette pièce où il était pour être sûr que personne ne vienne le tuer, il n'a pas pu être sauvé, je crois, de son AVC. La loi nous sécurise en vérité, même si elle n'est pas en mesure de nous garantir la sécurité absolue, précisément parce que tout le monde ne se soumet pas volontairement à la loi. Et si la loi est faite d'interdits, et non pas uniquement de paroles positives qui nous diraient ce qu'il faut faire, c'est parce que nous ne sommes pas tous des êtres moraux. Et dans une bonne anthropologie réformée, nous pourrions dire que nous sommes même pécheurs, ce qui signifie que nous n'avons pas encore bien intégré l'espérance divine, que nous avons besoin de progresser. La loi nous aide en ce sens. Si notre société était composée uniquement d'êtres moraux, c'est-à-dire de gens qui tiennent compte des autres, des gens qui, comme le demande l'apôtre Paul, agissent en fonction des autres, ou, comme le suggérait le philosophe Paul Ricoeur, ont une éthique inspirée par la formule « après vous ». Eh bien, dans ce cas, nous pourrions nous contenter de la règle d'or formulée en Matthieu 7. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. » Mais une telle parole en notre monde est un peu dangereuse car elle laisse libre cours aux agissements des psychopathes et des pauvres pécheurs que nous sommes. Vous savez, cette formule, faites comme chez vous. Moi, à titre personnel, je ne la prononce jamais parce que je ne sais pas trop comment les gens se comportent chez eux. Et il y a des menus surprises qui font un peu grincer des dents. Et puis, on peut, dans un registre plus tragique, penser à certains qui ont des pulsions qui ne sont pas des pulsions de vie et qui peuvent du coup devenir la règle. Il faut donc poser des limites qui sont utiles aussi bien pour les autres que pour nous-mêmes. Je finirai sur une note plus légère en voyant un autre intérêt personnel à établir une liste d'interdits. C'est de soulager l'esprit et de lui autoriser quelques vacances. En effet, si nous convenons ensemble de ce qui est interdit, cela nous permet de savoir si nous commettons ou non une infraction. Et du coup, cela nous permet de limiter notre tourment intérieur. Car nous n'avons plus à nous interroger à l'infini pour savoir si nous avons mal fait ou non. Les interdits soulagent l'esprit de celui qui se soumet à la règle, car il n'aura pas à craindre qu'on lui fasse de reproches s'il a obéi à la loi. Cela ne soulagera pas sa conscience, qui lui demandera s'il a fait valoir ses talents, s'il a aimé son prochain, sachant que l'amour est une exigence infinie. Mais l'esprit, lui, sera soulagé, car il ne sera pas torturé pour savoir s'il a ou non enfreint la loi. Et donc, une pause est possible. Voyez-vous, la loi, par ses interdits, n'offre pas le bonheur. Nous l'avons vu la semaine dernière, c'est l'affaire de l'Évangile de métamorphoser la loi en un pouvoir créateur personnel qui nous rend capable d'être l'artisan d'un monde où il est possible d'éprouver une joie véritable. Mais pour pouvoir créer une œuvre d'art, pour faire de ce monde une œuvre d'art, encore faut-il intégrer les règles du vivre ensemble. Encore faut-il intégrer la loi. En Chine, il y a aussi de bons aspects positifs. Quand quelqu'un veut apprendre à peindre, à dessiner, il se met à l'école d'un maître. Et pendant des années, ce qu'il doit apprendre, ce sont les techniques de base et à apprendre à faire comme fait le maître. Et ensuite, il pourra inventer son style. Il pourra créer sa touche et déployer son propre art pour faire mieux, pour faire plus beau. Mais avant tout, il faut intégrer le minimum syndical. Et bien souvent, on estime que la peinture de Pablo Picasso, c'est une peinture qui ne vaut pas grand-chose. Pas nous ici. Mais voyez ses œuvres de jeunesse. Elles montrent qu'il avait intégré le classicisme, qu'il était capable de peindre selon les règles du siècle précédent. Et ensuite, il a pu développer son art. Vous en pensez ce que vous voulez, mais en tous les cas, ne considérez pas que Picasso ne savait pas peindre. Il savait et il a inventé quelque chose, que cela vous satisfasse ou que cela ne vous satisfasse pas. La loi ne produit pas notre bonheur, mais elle permet de donner les conditions indispensables pour que nous puissions produire notre bonheur. Au fond, la loi nous sauve des dangers mortels qui nous guettent et qui nous empêcheraient de nous épanouir. Elle sauve des dangers sociaux en posant des limites à différentes formes de tyrannie qui pourraient réduire à rien des personnes ou des groupes sociaux. La loi, avec ses interdits, sauf du danger existentiel qui consiste à vivre dans l'inquiétude permanente d'être menacé par autrui ou d'être soi-même un danger pour autrui. Pour autant, les rédacteurs bibliques n'ont jamais vu dans la loi un absolu. La loi, ce n'est pas Dieu. La loi est toujours interprétée dans les textes bibliques. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans la loi, à travers ces textes que nous avons relu ce matin, c'est qu'elle est une pédagogie utile de Dieu pour nous conduire vers l'autre et découvrir qu'il est un frère, une sœur, dont nous avons la responsabilité. Amen. Thank you. Prenons notre recueil de chants au cantique 255. Au cantique 255, nous chanterons les deux strophes « Levons-nous pour chanter ». Prenons place. Le temps des vacances vous laisse un peu de liberté pour pouvoir vagabonder à Montpellier, profiter d'être proche du centre-ville pour vous immerger dans les rues pleines d'ombre et donc très fraîches, et y découvrir un nouveau lieu tout à fait intéressant, le comptoir Cévenole. C'est rue La Fontaine, une des rues qui va vers l'église Saint-Roch. Le comptoir Cévenole présente deux avantages pour notre église. Le premier est qu'on y trouve des produits qui viennent des Cévennes, des légumes, de la charcuterie, on y trouve du vin, on y trouve du fromage. En conséquence de quoi, vous pouvez dire à ceux qui, le week-end, ont l'habitude d'aller dans les Cévennes qu'ils peuvent rester à Montpellier, ce qui leur permettra de venir au culte. Donc, premier avantage, cette épicerie Cévenole nous permet de rester à Montpellier le week-end plutôt que de nous rendre dans les Cévennes. Le deuxième avantage, c'est que si vous allez profiter de ce lieu où il est possible de consommer sur place, il y a une petite terrasse avec deux tables tout à fait mignonne, vous encouragerez ce commerce qui vient d'ouvrir et qui est tenu par Benoît Daudeville, l'un des fils de Jacques et Idelette Daudeville. Voilà, donc c'est fraternel aussi d'aller le saluer et puis de l'encourager actuellement. Y a-t-il d'autres informations à partager ? Alors, c'est le temps du partage de nos biens matériels, c'est le moment de l'offrande, l'occasion de donner à l'Église les moyens dont elle a besoin pour pouvoir faire retentir l'Évangile en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Nous nous unissons dans la prière. Dieu d'Abraham, Dieu de la promesse, donne-nous d'être les témoins actifs de ta fidélité dans ce royaume que tu attends. Dieu de Jacob, Dieu du combat, donne-nous de lutter contre le mal, contre l'injustice, contre la souffrance. Dieu de Moïse, Dieu de la délivrance, donne-nous de libérer celles et ceux qui sont prisonniers du doute, du désespoir, de la peur. Dieu de David, Dieu des louanges, donne-nous de répandre la joie de te connaître et de t'aimer. Dieu d'Élie, Dieu de la faim rassasiée, donne-nous d'offrir du pain à celles et ceux qui ont faim. Dieu de Jésus-Christ, Dieu d'amour, donne-nous en tout temps et en tout lieu d'être comme les échos de ta parole qui accueille, qui console, qui donne la paix. Et nous poursuivons notre prière justement en disant les mots que Jésus a laissés à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour recevoir la bénédiction au nom même de Dieu. Frères et sœurs, la paix de Dieu qui dépasse infiniment ce que nous pouvons penser et imaginer est avec nous tous, présents et absents, visibles et invisibles, pour le temps et pour l'éternité. Amen.